Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Frédéric Cavier.
Jair Bolsonaro a donc largement remporté l'élection présidentielle au Brésil au deuxième tour de scrutin hier. Qu'est-ce que représente ce résultat pour vous ?
L'ombre du fascisme s'étend. Elle s'étend en Amérique du Sud, elle s'étend en Europe, elle s'étend partout dans le monde. C'est extrêmement inquiétant, mais une fois qu'on a dit que c'était inquiétant, la question est de savoir ce qu'on y oppose et comment on y résiste, parce qu'aujourd'hui, forme d'autoritarisme mêlée de climato-scepticisme, d'un discours très inégalitaire, ouvertement intolérant, sexiste, homophobe, raciste. Ce discours-là est en train de conquérir les têtes, les consciences de beaucoup d'électeurs. Et face à cela, les digues sont fragiles. Elles apparaissent pour la gauche en Europe, en Amérique du Sud, comme très fragiles. Donc, il me semble qu'une des choses que l'on doit dire, c'est que la gauche ne peut plus être fragile, elle, sur ses valeurs, sur ses principes. Et je le renvoie au débat que nous avons en Europe sur la question des migrants. Sur cette question-là, il y a une digue culturelle, idéologique, j'assume le mot idéologique, sur avons-nous un devoir d'hospitalité, d'accueil à l'égard de gens pauvres qui réclament simplement l'asile, ou ferme-t-on les frontières, construit-on notre avenir en opposition et en fermeture par rapport à ces grands mouvements de population. Au Brésil, on vient de fermer les portes. On vient de les fermer peut-être aussi sur la démocratie, les portes. Et c'est effectivement très inquiétant.
Dans une tribune qu'on va évoquer pour d'autres aspects dans un instant, que vous avez signée dans Le Monde le 24 octobre, vous dites « Le rôle des gouvernants n'est pas de démentir le réel ». Est-ce que l'explication de cette montée du populisme, du nationalisme n'est pas en partie là ?
Bah écoutez, il y a des points communs. Trump vient de féliciter Bolsonaro. Ils ont un point commun. Ils pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ou pour Trump, il pensait que c'était une stratégie des Chinois pour affaiblir les Américains. Ils pensent que ça n'existe pas. Et ils construisent l'avenir de leur pays dans le déni de cette réalité. Donc ils mettent en danger leur propre population, mais après tout, ils s'en moquent, puisqu'ils appartiennent aux classes les plus aisées, qu'ils pensent qu'ils seront toujours à l'abri, eux et leurs enfants, de ces phénomènes-là. Et montent partout ce qu'on appelle aujourd'hui le carbofascisme, c'est-à-dire une idéologie qui est à la fois extrêmement autoritaire sur le plan démocratique et social, inégalitaire, mais en même temps qui nie une réalité. Mais ce carbofascisme, à quoi fait-il face ? Hélas, au carbolibéralisme. Parce qu'aujourd'hui, les libéraux, sous prétexte, à l'abri de leur discours de communication, prétendu vert, continuent une politique qui est de surexploitation des ressources fossiles de la planète, de déforestation, d'artificialisation des sols. J'en veux pour preuve la France. Parce qu'on y trouve des carbolibéraux qui, d'un côté, font des taxes sur le diesel, mais de l'autre, continuent à donner des permis d'exploitation et de forage à Total.
Vous les défendez, ces taxes? Parce que vous êtes un fervent partisan de la transition énergétique.
Je suis un fervent partisan de la transition écologique, mais c'est pas de ça dont on parle, là. Là, on lève une taxe pour combler des déficits budgétaires qui ne financent absolument pas la transition écologique. On fait supporter, de facto, le poids de cette fiscalité nouvelle sur les épaules de ceux qui n'ont pas souvent le choix que de prendre leur voiture loin de leur lieu de travail, etc.
Vous vous sentez solidaire? Vous vous sentez solidaire de ceux qui fument des clopes et qui roulent au gasoil, pour reprendre l'expression de Benjamin Griveaux.
Mais c'est pas le sujet, justement. Et c'est là que Griveaux est d'une totale malhonnêteté. La réalité, c'est qu'il faut des alternatives en termes de transport public. La réalité, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une fiscalité qui soit à peu près fixe et non pas en pourcentage, qui ne nous amène pas sur les carburants parce que ça va continuer à augmenter. Parce que dans les faits, la charge repose sur les épaules de celui qui prend la voiture seulement, mais pas sur Total. Total est un des plus grands contributeurs au réchauffement de la planète et aux émissions de CO2 en France. Est-ce qu'il y a une fiscalité spécifique sur ceux qui s'enrichissent, distribuent des dividendes considérables et font des bénéfices monstrueux sur la base de l'exploitation des ressources fossiles ? Non. Eh bien, moi, je considère que la fiscalité écologique, la question des péages urbains, la question des alternatives au transport par voiture, tout ça doit faire l'objet d'un plan. Mais là, en l'occurrence, faire passer une seule et unique mesure de fiscalité écologique sur les carburants pour la grande affaire en matière de transition écologique, alors qu'il n'y a aucun plan, aucun programme, aucune politique ambitieuse dans ce domaine-là, en réalité, on masque et on dissimule une simple mesure de création d'une taxe nouvelle pour financer quoi ? Les déficits budgétaires, c'est-à-dire continuer à payer les grands cadeaux qu'on a fait aux riches en début de quinquennat.
Mais est-ce qu'on a le début d'un commencement de solution en zone rurale, où pour l'instant il n'y a vraiment pas d'alternative à l'automobile ?
Mais si, il y a des.
Vous n'avez pas toujours une gare à portée de chez vous.
Pour commencer, faut pas les fermer, les gares. Pour commencer, faut pas fermer les petites lignes au motif qu'elles sont pas rentables. Donc vous avez un gouvernement qui vous dit je fais de l'écologie, mais ferme quoi ? des voies de chemin de fer, au motif qu'elles ne sont pas rentables. Aucune incitation à choisir justement le train, à avoir des gares desservies par des lignes qui sont des lignes régulières. On fait le choix de fermer des gares, fermer des lignes, et on abandonne toute logique de service public. On pense que demain, toutes les mobilités doivent être réglées selon quel principe ? Celui du marché, de l'entreprise. Bon, bah, assumons-le. Oui, il y aura entre deux points en France, deux points du territoire, des lignes moins rentables que d'autres. Mais c'est ça, le service public. Et c'est ainsi qu'on construira une politique d'aménagement du territoire qui permettra justement de relier les individus entre eux sans les obliger à prendre leur voiture, notamment quand elle fonctionne avec du carburant diesel.
Dans cette tribune que j'évoquais donc dans Le Monde le 24 octobre, vous dites « Portons une écologie à laquelle seule l'échelle européenne permettra d'être respectée, une écologie clairement de gauche car incompatible avec le système libéral ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, l'écologie est incompatible avec la croissance ?
Écoutez, moi je crois que la croissance infinie dans un monde fini, c'est idiot, absurde. Et on en voit chaque année les conséquences, puisque chaque année, ce qu'on appelle le jour du dépassement, le moment où on a épuisé nos ressources renouvelables, est de plus en plus tôt. On attaque les stocks de plus en plus tôt. C'était au 1er août cette année, ce sera au 31 juillet l'année prochaine. Donc voilà la réalité. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut penser les politiques économiques différemment. Ne pas avoir comme seule boussole la croissance de la richesse matérielle, surtout quand elle continue à creuser les inégalités, ou elle ne règle rien aux inégalités, et quand elle se fait au détriment de notre cadre de vie, notre santé environnementale, de la qualité de notre alimentation ou de l'air que l'on respire. Première chose. Et les conséquences que j'en tire, elles sont doubles. C'est que plutôt que l'Europe fonctionne obsédée par la question des déficits publics et de la dette publique, elle devrait adopter des critères pour examiner les politiques publiques de chacun de ses États qui soient fondés justement sur la transition écologique. Si demain la Commission européenne devenait l'arbitre des politiques européennes sur la question écologique plutôt que sur la question budgétaire, nous aurions là un continent qui se mettrait en situation de faire face aux défis qui lui est posé, c'est-à-dire de convertir son économie à l'écologie. Et la deuxième chose, c'est comment la Banque Centrale Européenne, qui crée des dizaines de milliards d'euros par la création monétaire supplémentaire tous les mois, comment cette politique-là, la Banque Centrale Européenne, est mise au service d'un New Deal vert, d'une politique de transition énergétique et écologique. Il faut plusieurs centaines de milliards d'euros, nous en avons les moyens. Le réel, c'est aussi de dire qu'on peut le faire. Le réel, il n'est pas sombre. Le réel, il peut être parfaitement positif. Et en l'occurrence, en Europe, on a les moyens, nous, aujourd'hui, d'engager la transition écologique.
Vous avez été, Benoît Hamon, ministre de l'Éducation. Le gouvernement va dévoiler demain, en Conseil des ministres, les mesures qu'il entend mettre en place pour lutter contre la violence dans les établissements scolaires. Parmi les pistes évoquées par Christophe Castaner, le nouveau ministre de l'Intérieur, il y a la présence de policiers au sein même des établissements, dans des cas précis et en accord avec le chef d'établissement. Est-ce que ça peut faire partie de la solution ?
Écoutez, on réfléchit toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un événement grave qui mérite sanction.
On parle de ce gamin qui braque sa prof avec un pistolet.
De ce jeune homme qui braque sa professeure. Et on fait dans la surenchère sécuritaire, pour constater dans quelques mois qu'on aura rien n'aura véritablement changé. On en rajoute d'ailleurs, au passage, avec la suppression des allocations familiales pour les familles, pour certains membres de la droite, allez me dire en quoi, pour une mère de 5 enfants dont un enfant part en vrille, ce que ça règle pour elle et sa famille et les 4 autres enfants si on lui supprime les allocations familiales, c'est vraiment la stigmatisation de ceux qui aujourd'hui ont besoin au contraire d'être accompagnés dans leurs tâches parentales et éducatives. Il me semble aujourd'hui que dans les faits, il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la sécurisation des établissements. Tout ça est affaire d'éducation. Tout ça est affaire de formation initiale des enseignants. Tout ça est affaire de formation continue des enseignants. Et je vais y rajouter une chose. Moi, c'est pas de policiers supplémentaires, de policiers dont on a besoin dans les établissements. Ce sont d'adultes et d'enseignants. Or, c'est ce même gouvernement qui supprime 1800 postes, notamment dans le second degré, qui va en supprimer l'année prochaine 2500. Moins de CPE, moins de médecine scolaire dans le premier degré. Moins d'adultes, moins d'encadrement, moins d'éducateurs. Vous croyez que ça va faire quoi ? Eh ben, ça produira davantage d'inégalités et probablement davantage aussi de violences dans les établissements. Donc, commençons par recruter des professeurs.
Merci Benoît Hamon. Bonne journée.